L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre-quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Salut toutes et tous amis de Radio La. Radio La, web radio basée à Guelfi. Gérard Daben au micro pour une nouvelle émission, l'entrevue. L'association Émile Loubet de Montélimar, fondée en 2021, vient d'éditer son premier ouvrage, Journal de la Présidence de la République, Émile Loubet, 1899-1906. À travers cet ouvrage, l'association Émile Loubet nous propose de découvrir le fonctionnement de la Troisième République à travers la présidence d'un ancien Dromois, maire de Montélimar. Émile Loubet est né fils d'agriculteur à Marsanne. Il aura un parcours exceptionnel, il finira sa carrière président de la République. Sous sa présidence, des lois sont promulguées, certaines marquent encore aujourd'hui notre quotidien. La loi sur les associations à but non lucratif, dite loi 1901, la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, dite de séparation des pouvoirs, d'où découlera la laïcité à la française. Nous avons rencontré Albert Rey, étudiant en droit et sciences politiques, président fondateur de l'association, ainsi que Fred Jourdan, membre très actif, chargé du pôle laïcité de l'association. Pourquoi Albin se livre sur Émile Loubet ?
C'est pas uniquement de faire découvrir aux Dromois ou aux Montiliens, c'est surtout de conserver cette partie-là de l'histoire, qu'elle ne s'évapore pas avec le temps et qu'on puisse poursuivre sur cette histoire dromoise. Et avec l'association Émile Loubet, donc créée en mars 2021, l'objectif était justement de pouvoir partager, créer des projets autour de la mémoire liée à la famille Loubet et à Émile Loubet en particulier, ancien président de la République. Et de pouvoir, au travers d'actions, fédérer, réunir des personnes qui avaient cette volonté-là de conserver cette histoire dromoise et aussi de mettre en avant la Drôme au niveau national, voire international. Et c'est le sens des projets que porte actuellement l'association.
Parce qu'Émile Loubet, il appartient à tout le monde.
Exactement. L'histoire, moi, j'aime bien dire que l'histoire d'Émile Loubet, elle est universelle parce que ça va faire plus de 100 ans que Émile Loubet a été président de la République et on en porte encore aujourd'hui les traces. Que ce soit quand il a été aussi maire de Montélimar, on a un héritage qui est juste énorme et les gens se rendent pas compte que au quotidien, on est au contact de choses qui ont été faites par Émile Loubet ou en tout cas sous son mandat.
Émile Loubet, il naît fils d'agriculteur et il termine sa vie retraité de la présidence de la République. C'est quand même un parcours extraordinaire.
Exactement, donc la méritocratie au sens, au sens pur du terme, il a gravi les échelons de la République, autant en commençant simple conseiller municipal à Grignan, ensuite en devenant maire de Montélimar, et puis là, il a commencé
député,
à gravir député,
ministre, sénateur, président du Sénat, président du conseil.
Conseil aussi départemental de la Drôme, et ça me tient aussi beaucoup à cœur, et il a eu la chance ensuite de pouvoir avec... C'était pas prévu, Émile Loubet, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que lui, il n'avait pas forcément la volonté d'être président de la République. C'est venu un peu comme ça, parce qu'il a été cet homme-là à ce moment-là, et c'est comme ça qu'il est arrivé, et il a voulu, avec sa bonne volonté, apporter ce qu'il a pu à la France, et je pense que ses origines dromoises et ses origines aussi paysannes ont toujours été très importantes pour lui, et c'est aussi une fierté qu'il faut mettre en avant.
Juste avant et pendant son mandat, la République n'était pas encore établie, quoi.
Bien sûr, je pense que l'engagement d'Émile Loubet, fervent républicain, les valeurs républicaines qui sont les siennes étaient très fortes. Quand il était lycéen, quand il était étudiant, que ce soit autant à Cré qu'à Paris, il a été au contact de personnalités qui se sont engagées pour la République, telles que Léon Gambetta, et ça a vraiment forgé ses valeurs. Et c'est comme ça, donc, Émile Loubet, qui est né en 1838, a pu vraiment s'engager pour cette cause et a vraiment, on va dire, ancré dans la France, dans l'histoire de la France, la République telle qu'elle est aussi aujourd'hui.
Si on se base sur l'échiquier politique actuel, il serait où Émile Loubet à l'heure d'aujourd'hui ?
Ils seraient partout. C'était pas les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on se plaçait sur l'échiquier politique, justement, comme vous l'avez dit, par rapport si on était républicain, monarchiste, si on avait des idées. C'était pas la même composition politique, donc c'est très difficile de répondre à cette question. Pour moi, Émile Loubet, il se définit pas par rapport à sa place sur l'échiquier politique, mais plutôt à son humanité et aux idées profondément inclusives qu'il incarnait.
Oui, les idées républicaines.
C'est
je
ça.
Je pense qu'il y a peut-être un parti ou deux dans lequel il ne serait pas à l'heure actuelle, quoi.
Je pense aussi, mais voilà, je laisse ça aux stratèges actuels.
Ouais. Il était ni des réfusards, ni un anti-réfusard.
Il a eu beaucoup de retenue sur cette question. Émile Loubet n'a pas voulu rentrer dans le vif du sujet officiellement. Et c'est comme ça aussi qu'il est devenu président de la République. C'est parce qu'il incarnait un peu cette neutralité-là sur la question. Mais il faut savoir que c'est Émile Loubet qui a gracié Dreyfus en 1906. Et c'est lui aussi qui l'a réhabilité, on va dire, et qui a fait réviser son procès. Donc on dit qu'il n'a pas pris parti, mais quand même, je pense qu'officiellement, il n'a pas pris parti. Mais il avait quand même son avis sur la question et je pense que beaucoup d'hommes politiques actuels pourraient prendre exemple sur lui. Je pense qu'il a favorisé l'action au lieu de la polémique et c'est important de se poser la question pourquoi on fait les choses aujourd'hui.
Revenez sur l'atmosphère qu'il y avait à cette époque-là.
Alors il faut savoir que la société de la fin du 19e, début du 20e était fracturée. Sur cette question, c'est-à-dire qu'on avait vraiment deux camps qui pouvaient être qui se valaient, c'est-à-dire qu'au niveau du nombre, au niveau des partisans de chaque côté, on avait vraiment une certaine équivalence sur la question et ça a été justement un défi, je pense, pour Émile Loubet, en tout cas son gouvernement, d'arriver à créer cette unité-là. Autour des questions et comme ça a pu l'être aussi à l'Assemblée nationale lorsqu'a été votée à la Chambre des députés la loi sur la laïcité, on y reviendra. Voilà, ça s'est fait de manière difficile. Mais justement, je pense que les plus grands combats de la République et en tout cas la plus grande fierté qu'on peut avoir aujourd'hui a été construit dans la difficulté et également dans la communication et dans le débat constructif. Je pense que ce qu'il faut aussi retenir de cette époque-là, c'était, au-delà des moments de violence qu'il y a pu y avoir, c'était de privilégier les idées dans le débat et de pouvoir construire un projet de société. Et c'est ce qui a aussi permis à tous ces combats, on va dire, politiques, sous le mandat d'Émile Loubet, qui sont aujourd'hui structurants, de pouvoir se réaliser. Et j'ajouterai un dernier mot sur cette question. Le contexte, il est aussi international. On n'en a pas beaucoup parlé là, mais il y a eu des grandes questions internationales sur le mandat d'Émile Loubet, notamment sur des alliances importantes avec la Russie, avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Et donc, c'est aussi l'action d'Émile Loubet et qu'on porte aujourd'hui encore les traits. On a fêté récemment les 120 ans d'entente cordiale, donc c'est important de le rappeler. Alors, je pense que Émile Loubet a voulu incarner, durant son septennat, il faut savoir qu'il a été président à l'époque, c'était sur la Troisième République, un septennat, c'est le premier président à avoir fini son mandat en ne se représentant pas et aussi en ayant une certaine stabilité, il a réussi à donner un espoir aux personnes qui pouvaient se dire que la République n'était pas faite pour la France. Et ben, il a montré le contraire et que l'action était constructive de la République.
Radiola, c'est sur radiola.media. Radiola !
Nous sommes toujours en compagnie d'Albin Ray et Fred Jourdan sur Radiola. Ils sont tous deux membre de l'association Émile Loubet. Cette loi 1901, elle arrive comment ?
C'est qu'elle arrive dans un contexte où on veut maîtriser l'influence justement de l'Église sur la société et permettre aussi à des organisations d'exister légalement. Dans cette loi, qui est assez simple, on a plusieurs types d'associations. Et aujourd'hui, on a une multitude d'associations et il faut savoir que les congrégations religieuses sont des associations. C'est un type d'association qui a été créé pour encadrer l'organisation du culte, mais aussi de thématiques plus civiles et citoyennes. Et justement, ça laisse aussi, et c'est ça que moi, qui me plaît beaucoup, ça laisse la possibilité aux citoyens de s'impliquer d'une autre manière, de manière civile, pour son pays. Quand on va dans les archives, on se rend compte qu'il y a une multitude de courriers, de lettres, d'événements auxquels Émile Loubet a participé et l'aide qu'il a reçue à l'Élysée, qui lui demandent des souscriptions, des financements pour des associations, des organisations coopératives, mutualistes, mais aussi pour des associations qui œuvrent notamment pour la pauvreté, contre la pauvreté, et qui viennent justement au service de personnes qui sont dans la difficulté. Et il faut savoir qu'il y avait un budget qui était même alloué à toutes ces organisations à l'époque par l'Élysée. Donc c'est aussi intéressant de travailler sur ça et sur l'évolution jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que la loi sur les associations facilite la loi sur, on appelle laïcité, sur la séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État ?
Oui, je pense qu'Albin avait raison, c'était un petit peu un ballon d'essai, ça a généré certaines choses et ça a mis en place certaines choses, et je pense que ça a pu permettre de travailler plus sereinement sur ce dossier, parce que ça a été très 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 compliqué quand même.
On parle à l'heure actuelle de l'ambiance à l'Assemblée nationale, à l'époque c'était pire.
C'était pire que ça, et nous, on n'a pas connu cette période, donc on pense que c'était facile ce qu'ils ont fait. Il y avait quand même des meurtres à l'époque, il y avait quand même des violences. C'était pas les mêmes, on en entendait moins parler parce qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux et tous ces médias, mais c'était très 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 violent et très agressif. Je pense que le passage de cette loi a été très très compliqué, et il a fallu se battre. Et c'est ça qui était intéressant avec Émile Loubet, c'est que c'est un président, et tout le monde dit, les présidents de la Troisième République et de la Quatrième République, ils n'ont pas eu beaucoup de pouvoir. C'est vrai. C'est vrai qu'au niveau du pays, ce n'était pas eux qui étaient en charge des affaires. Albin l'a souligné, il a beaucoup travaillé sur l'international. Mais sous son mandat, même s'il n'était pas d'accord, il a laissé passer un certain nombre de choses. Et moi, j'aimerais dire que si je ne veux pas le situer sur l'échiquier politique, j'aimerais quand même le marquer un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est où. Et quand même, quand quelqu'un parle, il faut savoir d'où il parle, parce que c'est quand même important. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait quand même un social-démocrate, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec une social-démocratie qui a un axe et qui ne fluctue pas par rapport à l'axe ambiant.
Pour moi, Émile Loubet, c'était un radical.
Oui, mais parce qu'à l'époque, l'extrême gauche était puissante aussi, ouais. Et lui, c'était un social-démocrate. C'était quand même des modérés. C'est le terme qui était radical, c'est vrai. Mais c'était quand même des modérés. Et je pense que c'était la social-démocratie. On ne peut pas faire monter les gens les uns contre les autres. Et on s'aperçoit que quand c'est blanc ou noir, c'est facile. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et à un moment donné...
Il y a du gris un peu partout, quoi.
Et voilà. Et il faut toujours trouver... Il faut que les gens adhèrent au projet. Et on se situe, quand on veut adhérer à un projet, il faut toujours... les gens se situent par rapport à eux-mêmes. Chaque fois qu'on parle d'Émile Loubet et de laïcité, on vient sur la genèse. Et c'est important pour les gens qui ne connaissent pas, parce que ça a été très compliqué avec Chevalier de la Barre, etc. La puissance de l'Église catholique, c'était elle qui gérait la société. Il a fallu que ça bouge, parce qu'il y en a qui en avaient quand même un peu ras-le-bol de la manière dont le pays vivait, et il fallait faire bouger les lignes. C'est ce qui a été fait. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui sur la laïcité, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je n'ai pas les réponses. Ce que je veux dans cette association, ce que j'aimerais et ce pourquoi je me bats, c'est faire venir des intervenants, des gens qui ont des réponses ou des meilleures questions peut-être que moi, mais c'est dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette laïcité ? Est-ce que la loi de 1905 suffit à régler les problèmes que l'on rencontre ? Parce que ce n'est pas déjà trop tard, mais est-ce que la loi 1905 sert à gérer les problèmes que l'on rencontre ou est-ce qu'il faut faire évoluer sa loi ? Parce qu'on était en 1905 sur une religion qui était une religion très puissante et qui gérait l'État. Et puis c'était cette religion du coin, du quartier, la religion qui passe dans la région, quoi. Aujourd'hui, on est avec une religion qui veut s'implanter. C'est un petit peu différent. C'est une religion qui a le pouvoir et qui va le perdre, et une religion qui veut s'implanter. Et aujourd'hui, le problème pour moi, c'est les républicains. Alors pas ceux qui ont privatisé le nom, hein. Je parle des vrais républicains. Les républicains, et surtout la gauche, puisque c'était la gauche quand même qui s'occupait de la laïcité, a abandonné complètement le sujet ou se déchire sur le sujet. Entre ceux qui ne veulent pas de vagues parce qu'ils veulent surtout se faire réélire, et c'est là où moi, Émile Loubet, m'intéresse, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à se faire réélire, il a cherché à faire des choses pour son pays. Donc moi, ce que je voudrais, c'est les gens qui cherchent qu'à se faire réélire et pas créer de vagues, c'est un problème. Et de l'autre côté, c'est ceux qui cherchent 400 ou 500 000 voix pour être au deuxième tour et essayer de gagner les élections. Il y a un vrai sujet là-dessus. Le sujet, c'est... nos amis musulmans doivent comprendre que la laïcité n'est pas contre eux. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. On a un problème avec une religion qui est très violente. Et il faut que cette religion...
Alors, une religion qui peut être très violente.
Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut faire attention à tous les mots qu'on utilise parce qu'on peut se faire traiter de raciste alors qu'on parle d'une religion. On a le droit de blasphémer. C'est... Dans notre pays, on a le droit. Et le blasphème permet que toutes les religions peuvent s'implanter et se défendre aussi. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Donc voilà pourquoi ce dossier laïcité me paraît très important. Et il faut que les politiques s'y impliquent. Il faut que les politiques arrêtent de penser qu'il faut se faire réélire parce que ça va leur péter à la gueule.
C'est vrai que l'Église catholique était vent debout. Et il y a une frange intégriste de l'Église catholique
qui existe toujours
et est toujours vent debout contre la laïcité. Le clergé classique et les catholiques acceptent maintenant. Ils ont peut-être, il a fallu un siècle pour comprendre que la laïcité, ce n'était pas contre eux.
C'est ça. Est-ce que cette loi est applicable aujourd'hui dans l'État et est suffisante? Ou est-ce qu'il faut la faire évoluer? Comme tu le dis, les catholiques ont fait leur révolution et bon an, mal an, tout se passe...
Leur évolution.
Et leur révolution, c'est un petit peu... Non, mais et ça se passe pas trop mal. Et ce sujet, on devrait plus en parler, on n'en parlait plus. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on parlait pas de religion. On parlait plus de religion et tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est au centre du débat et chacun se positionne. On est en train d'instaurer une religion, une politique à l'anglo-saxonne avec le communautarisme. Est-ce que c'est notre culture? J'en suis pas convaincu.
Radio La, radio locale d'intérêt général. Radio La.
Nous sommes toujours en compagnie d'Albin Ray et Fred Jourdan sur Radio La. Ils sont tous deux membres de l'association Émile Loubet. Il était communautariste, Émile Loubet?
Je pense que ça n'existait pas vraiment encore à cette époque-là, mais je ne pense pas, je ne sais pas, je ne peux pas me positionner là-dessus. Ouais. Là, c'est de trahir aussi un peu l'histoire, parce qu'on essaie, avec une grille de lecture actuelle, déchiffrer le passé. Je pense qu'il faut déchiffrer le passé avec la grille de lecture du contexte historique, et ce travail appartient aux historiens. En tout cas, on essaie de faire le travail avec l'association, un travail rigoureux, historique, et de, comme le disait aussi Fred, avec toutes ces questions anciennes, ces questions historiques, d'arriver aussi à les remettre au présent et au futur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, d'accord, c'est l'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette loi sur la laïcité? D'avoir une réflexion avec des universitaires, avec des personnes qui, justement, ont travaillé dessus de nombreuses années, et ça a été le sens de notre premier congrès Émile Loubet sur la laïcité, et on souhaite pouvoir évoluer et justement réfléchir sur ces questions-là avec des professionnels et des experts. Oui. C'est important.
Et puis entamer le débat avec les religieux, avec tout le monde, avec la société.
Avec tout le monde, et que ce soit... on parle spécialement de la laïcité, mais aussi avec d'autres choses qui se sont faites sous le mandat d'Émile Loubet, qui sont aussi importantes, et justement, voilà, d'arriver à réfléchir sur ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc c'est de remettre aujourd'hui, dans l'actualité, plus que jamais, les questions du passé.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on a organisé, Albin vient d'en parler un petit peu, notre premier colloque, l'idée, c'est, tous les mots sont importants. C'est-à-dire, quand on a fait ce premier colloque, le vendredi soir, on a fait le fait religieux en entreprise. Et on a fait venir des gens de la CFDT qui avaient travaillé sur le sujet et qui ont parlé d'un certain nombre de choses. Comment s'applique la loi laïcité aujourd'hui en entreprise? C'est important. Et le lendemain, on a reçu Michel Vévorka, avec Floriane Gouget, qui est une jeune qui a écrit un livre sur les réseaux sociaux et comment ça se passe aujourd'hui avec les problématiques que les jeunes rencontrent sur les réseaux sociaux. On a eu des gens qui sont venus, et dans la salle, ça a discuté, et il y a une dame qui, quand elle a dit à ses enfants qu'elle venait à cette réunion, ses enfants lui ont dit « mais t'es d'extrême droite ?» Et ça interpelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de laïcité, qui est défenseur de la laïcité, qui se présente comme le défenseur de la laïcité, c'est le Front National, le Rassemblement National, mais pour moi c'est toujours pareil. C'est ces gens-là. Il ne faut pas se méprendre. Le Rassemblement National se sert de la laïcité pour taper sur une communauté, et eux, ils sont maqués avec les catholiques du Chardonnay. Hein. Donc ils ne sont pas du tout là-dessus. Donc la laïcité, ce n'est pas le Front National et l'extrême droite qui défendra la laïcité, ce sont les Républicains. Les Républicains de tous bords. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. C'est pas contre les musulmans, bien au contraire, puisque s'il n'y avait pas la laïcité, il y aurait une religion d'État. et une autre religion n'aurait pas le droit de citer. Avec la laïcité comme on la connaît à la française, ça permet d'avoir toutes les religions qui peuvent s'exprimer, mais dans un cadre républicain. Est-ce qu'il faut laisser la liberté aux ennemis de la liberté ? C'est le même sujet qui aujourd'hui m'interpelle, c'est-à-dire avec la laïcité, est-ce qu'on peut donner de la liberté aux ennemis de la liberté ?
Ennemis de la République.
Et aux ennemis de la République, voilà.
Aux ennemis des valeurs de la République.
Tout à fait. Voilà, c'est ça l'idée qu'on veut. Nous, on n'a pas de réponse. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'Albert, on est un peu là-dessus. On veut qu'il y ait des gens qui viennent ouvrir le débat. Parce que quand on parle, on échange, on est d'accord ou pas, mais on évolue.
Il y a quelque chose d'important aussi à dire, merci. Et c'est que justement, l'association, elle a pas vocation, et je pense que c'est important de le dire, elle est apartisane, on ne prend pas d'idées politiques à l'intérieur de l'association, mais justement, c'est de favoriser le débat et la réflexion justement sur toutes ces questions-là.
Accueillir des gens de l'échiquier politique républicain.
Bah, bien sûr, moi je le crois. Justement, on a des personnes qui sont de tous bords, et justement, ça, voilà, la question vraiment politique pure et dure actuelle, voilà, pas aujourd'hui sa place dans l'association. On parle de ce qui se passe, des enjeux de société. Je pense que c'est ça qui est le plus important dans l'association.
Mais quand on touche à certains faits, c'est plus difficile d'aller chercher des partenaires quand on commence à parler de laïcité, quand on commence à parler de toutes ces problématiques-là. C'est pas la même approche, c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte et qu'on lance le débat. Et j'ai la chance d'avoir rencontré un jeune qui est motivé, qui a une réflexion et qui a envie de faire et qui fait beaucoup de choses. Même si par moments je me dis, est-ce que c'est pas trop tard ? Je me dis que tout n'est pas perdu quand je vois des présidents comme Albin qui sont bien sur le sujet.
Moi je veux revenir sur le mot politique. La politique, c'est gérer le bien commun. Vous ne voulez pas des gens qui discutent comment gérer le bien commun, c'est-à-dire de faire de la vraie politique ?
Bien sûr que la politique, c'est la vie de la cité, et on doit se battre pour ça. Et moi, là où j'en veux aux politiques, c'est que, comme je le disais...
Aux hommes politiques.
Voilà, aux hommes politiques. Ils veulent, leur but, c'est de se faire réélire, ou de se faire élire. On se fait élire parce qu'on a un beau programme et parce qu'on se bat pour ce programme-là. On n'est pas à géométrie variable et on n'est pas à chercher des voix d'un côté ou alors pas dire ça de l'autre parce que ça risque de blesser telle personne. On croit en ces idées, elles peuvent évoluer, elles peuvent bouger. La grandeur de la politique.
Alors, donc au-delà de la présentation de l'ouvrage, de nombreuses conférences en lien avec cet ouvrage, que ce soit dans la Drôme ou bien même en région parisienne, parce que l'ouvrage a été préfacé par Gérard Larcher, président du Sénat, lointain successeur d'Émile Loubet, notre objectif, c'est de pouvoir prochainement réorganiser dans la Drôme un congrès, un colloque de l'association Émile Loubet sur justement des questions diversifiées, comme l'a dit Fred, mais également de pouvoir voilà, aussi remettre au cœur du débat la question historique et les enjeux que ça pose aujourd'hui, tout ce qui a pu se passer sous le mandat d'Émile Loubet, et justement faire intervenir, comme on l'a dit, des professionnels. Également, on a d'autres projets, cette fois-ci peut-être plus universitaires ou plus, encore plus historiques, qui sont la réalisation justement de vidéos ou de choses plus ludiques pour pouvoir toucher une certaine partie de la population, notamment drômoise, sur les questions d'Émile Loubet, pour, comme vous le disiez, faire connaître encore davantage cet illustre drômois. Et en dernier lieu, ça serait aussi également de continuer à préserver le patrimoine et en lié à Émile Loubet, que ce soit la statue dans le parc, mais également peut-être de pouvoir donner le nom, c'est une chose qui nous tient à cœur, à Montélimar, à une rue, peut-être de remettre la place du mandat d'Émile Loubet à Montélimar sur la question de la laïcité, ou bien une rue peut-être plus grande aussi sur Émile Loubet.
Digne du personnage.
Digne de ce qu'Émile Loubet a apporté à Montélimar.
On est en train, avec Albin, de travailler sur un colloque à monter, ou une réunion, ou une réception, sur d'autres dates. Mais je pense qu'aujourd'hui, les républicains de tous bords doivent pouvoir se mettre en avant et lancer un appel pour que notre laïcité doit vivre et doit être respectée. Je pense qu'un appel doit être lancé de Montélimar. Ce n'est pas de la prétention, mais c'est symbolique. C'est symbolique. On a la chance, nous, d'avoir Émile Loubet, qui a été notre maire et qui a été président de la République, quand cette loi est passée. Donc on se doit de faire quand même des choses en son nom, à lui. On a vécu plus de 100 ans tranquillement, donc ça doit pouvoir continuer. C'est juste à trouver les mots et rencontrer les bonnes personnes, ceux qui ont envie que l'on vive tranquillement. Trouvons la solution.
L'entrevue.
L'entrevue ? L'entrevue ? L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radiola.
Cette émission est terminée. Merci à vous toutes et tous, fidèles des radios libres et plus particulièrement de Radiola. Vous pouvez contacter l'association Émile Loubet au 06 11 86 39. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission sur radiola.media.